France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Le silence, c'est de lui que nous parlons cette semaine. Il est temps d'aborder l'un de ses aspects les plus complexes, ce matin, le silence du trauma. La destruction des Juifs d'Europe par l'Allemagne nazie a mis du temps à devenir un sujet connu et fréquemment évoqué. Ce n'est pas, en tout cas pas seulement, parce que les rescapés sont restés silencieux. Résumer le problème ainsi est bien trop simple, nous le savons aujourd'hui. Beaucoup de survivants ont dit à quel point ils sentaient que leurs paroles ne pouvaient pas être reçues, et beaucoup ont fait l'expérience autour d'eux de cette absence d'écho et d'intérêt qui, au fond, est elle-même une sorte de silence. Ce silence-là, gêné ou indifférent, ou les deux, révèle-t-il parfois une autre sorte de trauma? Quelque chose d'évidemment différent des marques laissées dans les familles de déportés rentrés ou disparus, mais quelque chose de sourdement silencieux à sa façon et empreint d'un tabou durable. En effet, comment grandit-on dans une famille marquée par un soutien au nazisme en Allemagne ou par une collaboration active en France, et même dans toutes ces familles où il y a eu seulement une passivité épaisse, interrogée plus tard par certains descendants. Aujourd'hui encore, il y a moins de livres là-dessus, moins de paroles publiques. J'aimerais essayer ce matin d'évoquer ensemble tous ces silences sans jamais les confondre. Bonjour Laurence Kahn.
Bonjour.
Vous avez été historienne de l'Antiquité auprès de Jean-Pierre Vernant, lui-même ancien résistant, puis vous êtes devenue psychanalyste. Vous poursuivez votre réflexion sur notre rapport à la Deuxième Guerre mondiale en publiant aujourd'hui, au PUF, l'avenir d'un silence, des réalisations, refoulement, amnésie des masses. Bonjour Anne Weber.
Bonjour.
Vous êtes une écrivaine franco-allemande, traductrice aussi, vous avez écrit une dizaine de romans. En 2015, vous cheminez, si on peut dire, auprès des hommes de votre famille, père, grand-père, arrière-grand-père, dans un livre intitulé « Vaterland », publié au Seuil. Et dans ce texte complexe, tourmenté, vous évoquez le nazisme de votre grand-père paternel. Et bonjour Marie Schex.
Bonjour.
Écrivaine française, vous avez publié vous aussi plusieurs romans. En 1974, vous avez osé, et je dis cela parce que tout le monde dans votre famille n'a pas vécu cela bien, même si les choses ont évolué ensuite avec votre sœur en particulier, vous avez osé raconter l'histoire de votre père. Ce père, c'était Albert Begras. Il a été jusqu'au bout le bras droit du collaborationniste Jacques Doriot et il a été condamné à de la prison après la guerre. Votre texte, paru au Seuil, s'intitule Les lauriers du lac de Constance.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Je vous propose, pour amorcer notre réflexion sur le silence du trauma, d'écouter un moment curieux d'une émission de télévision de 1976. Simone Veil, la ministre, et Marceline Loridan, l'écrivaine et cinéaste, se croisent. Elle qui s'était rencontrée dans un camp d'extermination dont personne, ce jour-là, n'ose prononcer le nom. Et là, on sent soudain un trouble. Même les micros semblent ne pas suivre. Écoutez attentivement.
Bon, je vous remercie. Nous allons passer, madame, si vous le voulez bien, à la séquence suivante. Et alors, je voudrais dire que c'est un effet du hasard de l'actualité. Je vous jure que l'équipe de C'est-à-dire n'a rien fait pour combiner, entre guillemets, cette rencontre. Mais il se trouve qu'une des deux personnes auprès de qui Madame Veil va se retrouver, notre grand témoin va se retrouver, est une amie, je crois, d'enfance de Madame Veil. Alors nous allons retrouver une camarade de déportation. Nous allons retrouver.
Nos voix ont été différentes, mais nous sommes très
liés. Lorsque vous voyez Marceline Loridan, et avant de passer à la séquence suivante, ça vous rappelle un certain nombre de choses importantes qui se sont passées dans votre vie et vous êtes restés en contact étroit.
Oui, très étroit. Oui.
Nous étions dans le même camp, nous avons été déportés ensemble.
Oui, je pense que c'est une chose suffisamment dure et après tout qui n'est absolument pas utile d'évoquer. J'aurais bien aimé entendre ce tutoiement quand même. Hein? Alors vous ne voulez pas me le faire, c'est tout même... Non?
Mais je peux lui demander si tu vas bien.
Très bien.
Là, elle répond.
Bon. Je suis là avec toi ce soir, je vais bien.
On y arrive tout de même. Ouais. Madame, je vous invite à passer, si vous le voulez bien, à la place réservée au traitement de la troisième séquence.
Alors sans doute y a-t-il dans cette séquence le souci du présentateur Jean-Marie Cavada de tenir son conducteur, comme on dit en télé et en radio, de ne pas faire dévier le cours de l'émission. Mais dans ce cafouillage technique et cette précipitation, n'y a-t-il pas encore autre chose, d'après vous, Laurence Kahn ? N'oublions pas que vous êtes psychanalyste, mais il n'y a pas que les psychanalystes qui font des interprétations, libres.
Oui, enfin, ce son est absolument extraordinaire. Il a à peine besoin d'être interprété. C'est-à-dire que Cavada parle d'une rencontre dans l'enfance, alors que on est en 76, il y a déjà eu les grands débats sur l'avortement où tout le monde a su que Simone Veil était à Bergen-Belsen. L'amitié entre...
Et puis à Auschwitz,
oui, Simone Veil. C'est ça, mais elles se sont, je crois, rencontrées, pas à Auschwitz, je pense qu'elles se sont rencontrées à Bergen-Belsen, là où est morte...
Non, à Auschwitz, non ? Oui, pardon.
Peut-être. Mais alors, en tout cas, quand le nom du camp ne peut pas être prononcé et qu'on parle d'amitié d'enfance, évidemment, on voit très bien comment le silence est prié de s'installer très très rapidement. Et comme vous le dites très bien, les micros s'embrouillent. Je pense que ce qui apparaît dans ce son-là, c'est quelque chose qui a été dit finalement par tous les survivants qui sont revenus de déportation. C'est vrai de Anthelme, qui a pu parler du pharisaïsme, de l'oubli et du silence, qui a écrit quand même de très beaux textes là-dessus, tout de suite à son retour de déportation. Mais la fin du livre de Kertész, « Être sans destin », par exemple, porte exactement là-dessus. Il revient dans sa famille, l'appartement est occupé, et au fond, les gens qui voient revenir les survivants sont des gens fort déçu de les voir réapparaître. Donc, le silence est un silence de plomb.
Pourquoi déçu ?
Mais parce que ces déportés vont réclamer quelque chose. Ces déportés vont parler. Ils vont éventuellement parler de la collaboration. Alors, pour Kertész, c'est évidemment la collaboration de la police hongroise qui participe directement à son arrestation. En France, il y a exactement le même problème. Le problème de la collaboration française existe. Le problème des dénonciations en France, très important, sur lequel on dit fort peu de choses, alors que, alors là, pour le coup, d'expérience, je peux parler simplement de l'histoire de ma famille, les dénonciations se sont enchaînées. C'est-à-dire qu'ils étaient cachés dans un endroit, ils étaient dénoncés, ils se déplaçaient dans un autre endroit, ils étaient dénoncés, ils se redéplaçaient dans un autre endroit. Et au fond, les enfants cachés ont été cachés avec la plus grande difficulté et le plus grand risque. Donc de ce point de vue-là, on peut dire qu'effectivement, le silence était très très épais. Et sans doute qu'à partir d'un certain moment, dans ces familles juives qui avaient survécu, qui éventuellement avaient, dans leur histoire, du coup, un certain nombre de parents proches qui avaient disparu, à Auschwitz en particulier, il y a eu un moment où la revendication a totalement cessé d'avoir un sens. Et on voit assez bien comment quelque chose est venu s'interposer à l'intérieur du silence par rapport à la société civile. Je ne parle pas du silence à l'intérieur des familles. À l'intérieur des familles, en tout cas, moi, je peux parler juste de ma famille. À l'intérieur des familles, on parlait quand même. Moi, je savais tout à fait bien ce qui était arrivé.
À qui Vous parlez de votre famille. Qu'est-ce qui vous est
arrivé à mon grand-père, oui. Au père de ma mère, très précisément.
Il est rentré ?
Il est mort à son retour.
De retour de
déportation.
De quel camp ?
Un camp qui dépendait de Neuengamme. Mmh. Donc Neuengamme, c'est un camp de travail qui était près de Hambourg.
Oui.
Et donc voilà. Et il est mort, mais je ne veux pas m'étendre sur.
Mais nous ne nous étendons pas, mais nous aimons bien ici aussi nommer. Et justement, oui. Je voudrais revenir au problème du nom. Auschwitz n'est pas nommé dans l'extrait que nous avons entendu. Anne Weber, vous dites des choses au début de votre livre, Vaterland, sur le mot Auschwitz, qui est d'abord qui pose des problèmes de prononciation pour les Français, et puis qui n'est pas dissible, dites-vous, longtemps pour les Allemands.
C'est-à-dire que je raconte dans le livre quelque chose qui m'est arrivé ici même, pas ici même à France Culture, mais chez moi, en écoutant une émission de France Culture, où il y avait une invitée qui a prononcé le mot d'Auschwitz en disant, que, d'ailleurs comme vous venez de le
Madame
faire, Laurence
Kahn, vient de dire comme ça,
en disant Auschwitz. Et son invitée, qui était une auteure juive, l'a reprise de façon très dure, véhémente, en lui disant « Ce n'est pas comme ça que ça se prononce, c'est Auschwitz qu'on dit. » Mais elle lui a dit ça à cette animatrice qui était non-juive, comme si... moi, j'ai entendu quelque chose dans sa voix de reproche et de quelque chose de manque de respect et de mépris devant ce que ce nom représente. Et en réfléchissant à cet épisode, je me suis dit, de toute façon, c'est un peu quelle est la prononciation juste de ce nom, puisque c'est la prononciation française de la retranscription en allemand d'un nom polonais.
Mais, et en Allemagne. Et ce mot était, juste revenez au problème allemand, j'aimerais savoir, c'est un mot dur à dire, mais on dit aussi que, et ça même en français, juif, c'était pas un mot très facile à prononcer après la guerre et assez longtemps. Aujourd'hui, c'est banalisé. On a longtemps dit israélite. Juden en allemand, ça devait pas être très simple non plus dans les années 50, 60, peut-être même 70. Il y avait un tabou sur les mots.
Alors, je voudrais juste terminer pour cette histoire de radio pour dire que j'avais l'impression à ce moment-là que moi, en tant qu'allemande non juive, je ne pouvais pas prononcer ce nom correctement, qu'il n'y avait pas moyen pour moi de le prononcer correctement et que donc je devais éviter de le prononcer. Alors, est-ce qu'il y avait un tabou? Non, il n'y avait pas de tabou, mais il y avait une sorte de... Alors ça, j'ai ressenti très fort ce que vous venez de dire quand j'étais plus jeune, quand j'étais en Allemagne, encore, et même jusqu'à aujourd'hui, alors que je vis en France depuis 40 ans, l'impossibilité ou la réticence à prononcer le mot juif en allemand. Je peux le dire facilement en français, mais j'ai du mal à le... Je dis plus facilement l'adjectif « jüdisch »,« jüdische Menschen », des êtres, des personnes juives. Mais j'ai du mal avec ce mot parce que...
Avec le mot
Jude, je le dis quand même, mais parce que résonne pour moi encore le fait que ça a été une insulte, ça a été, j'entends les vociférations, les voix, et j'ai l'impression de ne pas pouvoir l'utiliser que c'est mieux de l'éviter, si je peux.
Dans votre livre, vous dites une chose que j'ai trouvée saisissante, c'est que des expressions allemandes, par contre, étaient employées sans problème, ce qui peut-être montre à quel point on avait mis le voile sur le passé. Par exemple, l'expression « bis zur Vergasung », jusqu'au gazage, dites-vous. On dit ça en allemand ?
Non, on ne le dit plus. Moi, je ne l'ai jamais entendu, mais des personnes plus âgées que moi m'ont raconté que jusque dans les années 50-60, on disait, mais comme on dit en français, quelqu'un a fait quelque chose à mort.
Oui,
pour
renforcer... Jusqu'à plus soif, ou ad nauseam.
Jusqu'au gazage, on disait.
On disait ça.
On disait,
on a fait ça jusqu'au gazage.
Oui, c'était une expression.
Marie Schex, est-ce que vous avez grandi dans un monde familial silencieux ?
Enfin, pas complètement, on se parlait quand même, si on prend le mot silence au pied de la lettre.
Vous m'avez compris, je crois.
Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire que j'ai grandi sans rien entendre. Et quand on entendait quelque chose, c'était des voix murmurées à travers les portes pour pas que les enfants entendent. J'étais la dernière de quatre enfants, j'étais la plus jeune. Et oui, il y a eu un silence total sur qui est mon père et où est-il. Et bon, je
Albert,
savais où il était.
Je vais le dire juste pour que les choses soient claires pour les auditeurs. Votre père est Albert Beugrat, donc bras droit de Jacques Doriot, dès la fondation du Parti populaire français, ben, il est avec Jacques Doriot.
Oui, enfin,
et jusqu'en Allemagne depuis, en 1944.
Depuis 1936, où il s'est engagé dans ce parti fâcheux et fasciste. Mais si vous voulez ça, personne. Alors, c'est là que le silence a complètement existé. C'est donc même avant ma naissance. Je suis né en 1942. Et c'est-à-dire, par exemple, dans la famille, ma mère ne savait absolument pas ce qu'il fabriquait quand il n'était pas à la maison. Il travaillait, entre guillemets. Il était très occupé. Papa rentrera tard ce soir. Mais c'était... Voilà.
Bon, en réalité, il travaillait avec le renseignement allemand, l'Abwehr, tandis que Jacques Doriot était engagé
Front. Mais enfin, c'est Doriot a eu beaucoup de bras droits. Hein. C'était assez comique, d'ailleurs. Non, mais je veux dire, bon, il avait plusieurs... ils étaient l'un après l'autre, ils étaient le bras droit. Mais c'est vrai que, bon, mon père est resté jusqu'au bout avec lui. Il s'est enfui en Allemagne, etc.
Et après, il a essayé de passer côté américain en avril 45 et les Américains l'ont livré à la justice française. Il a été condamné aux travaux forcés à perpétuité et a eu une amnistie en 1955.
Ouais.
Vous, en 1955, vous avez 13 ans.
Ouais.
Et vous racontez à la fin de votre livre, Les Lauriers du lac de Constance, qu'au fond, cette adolescence avec ce père qui ne mourra qu'en 1963. Et puis, finalement, vous avez votre papa, il y a quelque chose de tendre. Il travaillait pour Moscou à un moment en vendant des usines françaises aux Russes. Quand je te voyais revenir de Moscou, écrivez-vous, hilar, ta toque de fourrure jusqu'aux yeux et du caviar plein ta valise. Je te voyais entamer une nouvelle carrière. Et moi, je buvais la vodka avec toi et me disais, quel homme, tu commençais à me faire rire.
Oui, ça, c'est un peu...
Vous dites que vous étiez à 18 ans idiote.
Voilà, oui.
C'est vous qui le dites. Vous distinguez à peine la gauche de la droite.
Absolument. Je ne savais pas du tout dans quel monde je vivais. On ne savait pas. On ne savait pas. Ça ne m'intéressait pas. On n'en parlait pas. Et quand il est rentré de prison, lui-même racontait extrêmement peu de choses. On n'a pas pu poser de questions, on n'a rien pu faire. C'était les silences absolus, effectivement.
Alors, le problème du silence, pour reprendre les concepts de Laurence Kahn, c'est qu'il déréalise le passé. Vous évoquez Laurence Kahn dans votre livre, par exemple, des déréalisations qui ont eu lieu ailleurs qu'en Allemagne. En Pologne, on a refait la vieille ville de Varsovie, on a mis des jolies façades, qui étaient l'endroit du ghetto juif. Vous dites que finalement, ces façades correspondent, je vous cite, à un fonctionnement délirant. Un fonctionnement délirant. Est-ce que l'après-guerre a connu un fonctionnement délirant par la déréalisation en réalité du passé ? La déréalisation du passé.
L'exemple des façades de Varsovie qui ont été reconstruites à partir des tableaux de Canaletto. Pas exactement sur le lieu du ghetto qui a été totalement rasé, d'abord par les Allemands, enfin deux fois par les Allemands, une première fois au moment de la révolte du ghetto de Varsovie, une seconde fois au moment où les résistants polonais se sont battus au moment de la libération de la Pologne. Sur les lieux du ghetto, premier système de déréalisation, j'ai presque envie de dire, on a construit des HLM en très grande quantité. Et sur la place elle-même, qui avait été intégralement détruite, on a reconstruit des façades à l'identique qui sont plus vraies que vraies. Et ça m'a beaucoup, beaucoup impressionné, parce qu'ensuite, on a placé tout le programme de reconstruction ainsi que les plans, etc., on les a classés et honorés comme monuments à la mémoire du monde.
C'est-à-dire, je précise, en 1979, lorsqu'on a reconstruit un certain passé, c'est-à-dire le château royal médiéval, c'est lui qu'on a reconstruit là, l'ensemble fut inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Oui, et encore plus tard, au fond, il y a cette idée d'une mémoire très importante, d'une mémoire du monde. Et je me suis demandé, à ce moment-là, lorsque j'ai vu cela, au fond, qu'est-ce que c'est que la mémoire du monde ? À quel moment est-ce que des ruines, ou au contraire des reconstructions, et des reconstructions qui disent la chose sans la dire, bien évidemment, qui l'effacent, et qui même bouchent, en quelque sorte, la lucarne de l'histoire où il y a eu un effondrement absolument total, par des pierres toutes nouvelles, mais qui devraient être prises pour les anciennes, qu'est-ce que, au fond, les humains font avec leur propre mémoire ? Alors, pour moi, ça rejoignait complètement à l'autre bout du spectre, en quelque sorte, cette folie nazie tout à fait extraordinaire avec les pierres, justement, qui était que à la fois on allait construire, et c'était le but de Albert Speer, on allait on allait construire un Berlin absolument grandiose, magnifique, les cartons sont superbes, les maquettes aussi, mais avec l'idée qu'il fallait, au moment de la destruction de ce Berlin, que les ruines soient aussi belles que les ruines romaines, puisque le modèle pour Hitler était véritablement les ruines romaines, les ruines du Capitole. Et donc, Speer développe toute une théorie de la valeur des ruines, c'est-à-dire qu'il construit de telle manière qu'au moment où le Reich de Milan s'effondrera, si tant est qu'il s'effondre, hein, c'est ce qu'il écrit, on se retrouve avec une mémoire à travers ces pierres antiques qui seront devenues l'équivalent de pierres antiques et glorieuses, car toute cette affaire-là est une affaire de gloire. De même, par rapport à cette place de Varsovie, lorsque c'est inscrit au patrimoine mondial, au fond, c'est un exemple de la manière dont la Pologne a réussi à surmonter son histoire. Car c'est cela qui est dit. Alors, déréalisation, c'est-à-dire que, est-ce qu'on doit parler de refoulement de l'histoire à ce moment-là ? Est-ce qu'on doit parler de clivage dans la tête, dans nos têtes, disons cela très, très largement, ou bien est-ce qu'il y a un autre processus qui est en jeu ? Et c'est par ce biais-là que j'essaye de rentrer dans cette histoire qui est celui de la déréalisation.
Alors, on parle plus du silence que de l'invisible aujourd'hui, mais les deux sont liés. J'aurais quand même vous poser à toutes les trois une question avant qu'on entre dans des aspects biographiques et littéraires. Aujourd'hui, on dit beaucoup Shoah, Auschwitz. Les problèmes sont différents. Et je voudrais vous demander si la sollicitation permanente que certains appellent le point Godwin de cette époque et de ce massacre, cette destruction des Juifs, mais aussi des Tziganes par le nazi, cette sollicitation n'est pas aussi déréalisante. Dans l'histoire du tabassage des supporters israéliens de foot à Amsterdam il y a quelques jours, il y a quand même à soi seul dans cette affaire beaucoup pour s'inquiéter, pour réfléchir. Immédiatement, beaucoup, et Netanyahou en premier, a évoqué la nuit de cristal de 1938, où je voudrais dire qu'il y a eu plus de 100 morts et des milliers de déportés, alors pas encore dans les camps d'extermination et dans des camps de qui n'existaient pas encore, mais dans des camps de concentration. Il y a eu plus de 250 synagogues détruites. On est obligé d'aller solliciter ça tout le temps. Est-ce que ce n'est pas déréalisé? La nuit de cristal et toute l'affaire épouvantable qui a mené à la catastrophe passée. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie Scheck?
Écoutez, quand on entend les horreurs qui se passent de notre vivant, je parle de mon vivant parce que je suis quand même déjà une vieille dame, même si j'ai pas envie de l'être, c'est affreux. Et déréalisation pour moi c'est un mot qui me dit rien du tout, mais je dirais plutôt c'est une espèce de stupéfaction de me dire qu'en une génération qui est la mienne, bon ça fait plusieurs générations si on compte par 20 ans, c'est comme si on avait oublié justement tout ce qui s'est passé. Alors qu'on l'oublie pas, puisqu'on nous le rappelle tout le temps. Et je trouve ça complètement fou. Et ça, tout ça passe aussi par le langage, par la propagande, par... Je sais plus ce que les gens entendent, je sais plus ce qu'ils veulent, je sais plus... Je comprends pas.
Tout est génocide aussi, vous avez remarqué, le mot est...
Oh oui, alors c'est un peu une façon de simplifier, finalement, entre guillemets, hein, ces mots qui sont des mots terribles. Mais c'est comme si c'était... Ah ben c'est normal, c'est comme ça. Toute l'Europe devient d'extrême droite, petit à petit, et pas seulement l'Europe, malheureusement. Ben c'est normal, c'est un retour, c'est qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est affreux.
Qu'est-ce que vous en pensez, Anne Weber?
Alors, je ne sais pas si ça participe à une déréalisation, le fait de répéter, de renommer de renvoyer à ces noms et à ces événements. Mais c'est quelque chose qui me rappelle beaucoup ce que j'ai beaucoup entendu en Allemagne, mais qu'on arrête de nous tanner avec ces histoires. On en a assez d'entendre ça, on l'a entendu pendant des années et des années, et qu'on arrête maintenant, ça suffit, etc. Mais non, c'est... Enfin, j'ai l'impression que c'est pas une tentative de... qu'il faudrait pas parler de surmonter l'histoire, mais d'une volonté d'aplanir l'histoire. Il faudrait plus qu'il y ait de montagnes de morts derrière nous, mais il faudrait que ce soit une vaste plaine et qu'on passe à autre chose. Mais...
Et vous, voilà. Laurence Kahn, vous pensez que la déréalisation que vous évoquez du passé nazi, elle se poursuit par d'autres chemins que le silence en ce moment, par la sursollicitation de ces références?
Oui, je pense que votre hypothèse est très pertinente, parce que il y a un principe de surcharge de la commémoration qui est presque comme un système d'effacement, mais évidemment à coup de surplus de paroles, d'effacement de la rupture dans le tissu de l'histoire qu'a représenté l'extermination industrielle des Juifs. C'est-à-dire qu'on est dans deux plans complètement différents. Celui de la commémoration, qui d'ailleurs peut jouer de très mauvais tours à ceux qui commémorent. Je veux dire, l'expérience de Bitburg avec Kohl et Reagan qui vont dans ce cimetière commémorer les morts, et on s'aperçoit qu'il y a malheureusement quelques membres de la Waffen-SS qui sont en train d'être célébrés par la même occasion. Donc la commémoration peut jouer des très très mauvais tours. Mais au fond, quand vous le reliez à la déréalisation, je pense que c'est précieux, parce que effectivement, on réussit à faire cohabiter finalement deux courants totalement antinomiques. D'un côté, pas d'oubli, surtout n'oublions pas, commémorons, commémorons. Et de l'autre côté, évidemment, on va oublier, il faut oublier pour réussir à reconstruire et continuer l'histoire. Et dans la commémoration, vous avez absolument les deux courants incompatibles qui cohabitent à l'intérieur de tout un chacun. Et je pense que la déréalisation, elle est quelque part à cet endroit-là.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nous parlons ce matin, dans notre série sur le silence, du silence du trauma, avec Marie Schex, Laurence Kahn et Anne Weber. Et nous allons entrer un peu dans vos histoires respectives et dans vos livres respectifs. Anne Weber, dans Vaterland, il y a d'abord 64 pages où vous parlez de votre envie de découvrir non pas votre grand-père, mais votre arrière-grand-père, qui s'appelait Rang, R-A-N-G, auquel vous manifestez une certaine tendresse. Vous lui trouvez un autre nom, on va peut-être en parler, Zanderling, vous le surnommez. Il est mort en 1924, il était très lettré, il était apprécié de gens comme Walter Benjamin, qui disait qu'il incarnait la germanitude. Il a laissé un journal, des textes. Vous avez envie, et franchement on sent là, jusqu'à la page 64, une tendresse, d'aller explorer ce personnage. jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que quand il a été pasteur et qu'il a été envoyé pour germaniser les Polonais comme beaucoup d'autres avant la Première Guerre mondiale à Poznan, qui à ce moment-là était dans le... Dans le Reich, le deuxième Reich prussien plus qu'allemand, enfin prussien, il est allé visiter des hôpitaux psychiatriques et il a eu de singulières formules en se demandant pourquoi on laissait vivre ces gens-là. Et là, tout d'un coup, vous fermez et vous passez à son fils, qui lui a été un SS. Qu'est-ce qui se passe, page 64, et est-ce que ça s'est passé dans votre vie ? C'est-à-dire, vous avez commencé sur l'arrière-grand-père, et tout d'un coup, quelque chose de l'arrière-grand-père vous fait parler du fils.
Du fils qui était non pas dans la SS, mais dans la SA. Mais il s'est passé que j'ai commencé cette approche, c'est comme une enquête, autour de la personne et de l'époque de mon arrière-grand-père, mort en 24. Qui était, comme vous l'avez dit, ami proche de pas mal d'intellectuels juifs, non seulement juifs, mais aussi Benjamin, Scholem, Buber, beaucoup de gens dont il était ami proche, mais dont il sentait une profonde proximité aussi de lui, chrétien, pour le judaïsme. Et donc, c'était pas des amis alibi, c'était vraiment Et en cheminant vers ce personnage et son époque, je me rends compte que c'est comme dans un voyage. C'est pas un voyage en avion que je fais, c'est plutôt un voyage à pied. C'est-à-dire qu'il y a des stations et des arrêts et que ce qui me sépare de cet homme qui est mort en 24 et moi né en 64, ben c'est cette énorme montagne de mort, justement, et c'est toute l'époque du national-socialisme, et c'est la génération de mon grand-père, que je n'ai pas connue.
Mais je voudrais comprendre, parce que vous m'avez rectifié, il n'était pas dans la SS, mais dans la SA. En même temps, j'ai pisté, moi, votre grand-père dans votre livre, et j'ai du mal à comprendre. Vous ne vous étendez pas très longuement sur ce qu'il a fait et sur ses différents postes. Vous nous dites qu'il a été dans la SA, qu'il l'a quitté en juin 1938. Puis, vous expliquez que de 42 à 44, il a été, je cite, « rapporteur culturel à titre honorifique » pour le service de renseignement de la SS. Il a fait des fiches de lecture. Il était un homme des livres, qui, vous vous interrogez, est-ce que c'est plus rassurant que d'avoir été un homme de massacre concret ? Mais finalement, vous ne nous dites pas, à part le fait qu'il est devenu très pieux après la guerre, vous ne le pistez pas. Moi, j'ai essayé dans votre livre, vous n'essayez pas de savoir tout ce qu'il a fait et ce qui lui est arrivé, les éventuels procès qu'il a subis. Vous n'y allez pas à fond, vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est intéressant littérairement.
Ah, c'est intéressant parce que j'avais l'impression, moi, d'être allée assez à fond et d'avoir fait toutes sortes de recherches. Mais il y a un moment où, je ne sais pas, Marie Schex nous dira ce qu'il en est pour son père collaborateur, mais il y a un moment où vous ne pouvez pas savoir exactement oui. ce qu'ont fait les gens. J'ai interrogé des archives, j'ai épluché des archives, de différentes sortes en Allemagne sur lui, mais il n'y a pas écrit ce que les gens individuellement. C'était pas non plus un grand responsable nazi, mon père.
Non, mais c'était pas du tout un reproche, c'était une interrogation.
Ce que les gens individuellement ont fait. Oui, je n'ai rien trouvé de plus, de plus précis.
Entendu.
Mais peut-être n'ai-je pas assez poussé ma recherche, si vous le
je
dites.
Je ne sais pas, non, mais c'est intéressant. Ouais. Parce que la question se pose du rapport à votre père, qui lui est donc le fils de cet homme. Et là, c'est vraiment très fort dans votre livre. Vous avez une amie juive, elle-même écrivaine, Cécile, qui vous dit, bah maintenant, à ce stade de tes recherches, faut parler à ton père. Et vous dites, mais finalement, non, je n'irai pas, et ça semble la peiner, je ne lui parlerai pas, je préfère encore révéler tout ça publiquement, et je lui parlerai au fond après. C'est ça que vous dites, Anne Weber?
Non, mais oui, j'ai eu des appréhensions, j'ai eu peur d'en parler à mon père pendant que je faisais ces recherches, parce que j'étais sûre qu'il ne voudrait pas que j'écrive un livre où il est aussi question non seulement de son grand-père, mon arrière-grand-père, mort en 24, mais aussi de son père,
oui,
nazi. Et donc, je savais que que j'avais besoin pour écrire le livre de ne pas lui en parler et qu'il le saura plus tard.
Qu'est-ce qui s'est passé une fois le livre publié? Là, vous avez parlé avec votre père?
Non. Nouveau silence. Il n'a plus voulu me voir pendant 2 ans. Et il a été incapable de m'en dire quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui n'a pas nié le fait que son père était nazi. Mais il a été incapable de m'en parler. La seule chose qu'il m'ait dite, c'est... mais pourquoi tu as mis les vrais noms? C'est-à-dire que j'aurais, dans son esprit, sans doute, j'aurais pu romancer cette histoire, la fictionnaliser, et ça. Mais le fait de mettre le nom de son père et de son grand-père, de rendre public, c'est étrange parce que il y a un silence, lui, qui l'a tourmenté toute sa vie, et j'écris dans le livre aussi que je, enfin, j'aime le fait qu'il ait ressenti ce tourment. C'est le silence entre lui et son père qui l'a tourmenté. Mais il voulait, en même temps, il m'a dit, j'ai toujours eu peur que cette histoire, que quelqu'un le sache, que ça soit rendu public. Et il m'en a parlé à moi, qui suis la seule dans la famille à rendre de temps en temps des choses publiques en publiant des livres. voilà. Et puis j'ai fini par le rendre public.
Donc il vous en a parlé, c'est ce que vous venez de dire. Il vous en a parlé, en fait. Il vous en a parlé.
Oui, oui. Non, mais il n'y a pas eu de silence dans la famille. Il m'en a parlé. Il en a eu honte, ça l'a tourmenté, mais il ne voulait pas que ça se sache.
Oui.
Ce qui est un peu absurde, parce que son père n'était pas, comme je vous l'ai dit, un grand responsable nazi, c'était juste un nazi ordinaire, et on était entouré de gens dont les pères avaient été des nazis ordinaires. C'était rien d'extraordinaire en Allemagne.
Vous vous en voulez un peu parfois, ou bien vous êtes libéré d'un poids, du poids du silence?
Du poids du silence, je ne sais pas, mais du poids de cette histoire, je ne me sens pas libérée. Et je ne le serai jamais. Mais je crois qu'il y a quand on rompt le silence, il reste toujours du silence. On ne peut pas dire les choses complètement. Et il y a des silences, par exemple, à travers ce qu'on disait tout à l'heure, les mots qu'on ne peut pas prononcer, un voile qui s'est posé sur la langue, ou dans le livre de Marie Schex, je me demande s'il n'y a pas aussi, il reste beaucoup de silence encore. Vous avez dit, vous avez écrit dans le livre que votre père avait été ce qu'il était, un collaborateur, mais il me semble que vous ne l'avez pas renversé de son piédestal. Il reste un peu sur un piédestal.
Ça, c'est l'amour des enfants pour leurs parents. Et on sait très bien qu'on ne peut pas tuer son père si facilement. Ceux qui arrivent sont des héros.
Je vous écoute, Marie Schex.
Oui,
vous.
Mais écoutez,
sur vous, qu'est-ce qui se passe?
C'est passionnant ce que disait Anne Weber, parce que c'est comme un héritage de silence dont personne n'arrive à se sortir. Enfin, c'est. Alors, je vais. C'est pas du tout pour diminuer votre chagrin et vos silences, mais j'ai eu la chance. Hein, je vais dire une chose un peu affreuse, mais j'ai eu la chance que mon père soit mort quand j'ai publié mon livre. Cela dit, le livre, je l'ai fait. C'était mon premier livre et je l'ai écrit grâce à lui, dans la mesure où il avait laissé 25 cahiers, des petits cahiers d'écoliers, qu'il avait écrit en prison. Soi-disant, c'est des mémoires et dont il allait éventuellement faire quelque chose. Mais quand on écrit quelque chose et qu'on ne le brûle pas, c'est qu'on le laisse pour quelqu'un. Oui. Moi, je l'ai pris comme ça, je l'ai compris après. Oui. J'ai compris après que, dans le fond, j'étais la dernière de la famille, la plus jeune, celle qui connaissait le moins, qui avait le moins souffert, finalement, de la famille. Eh bien, moi, il me laissait ça. Alors, c'était vraiment une patate chaude. Hein. Et c'est ma mère qui me l'a sorti après la mort de mon père, qui m'a sorti ses cahiers en me disant, écoute, voilà.
Et pourquoi c'est vous qui avez recueilli cela? Parce que vous avez un frère, il faut le dire, vous étiez quatre dans cette famille.
On était quatre.
Un frère qui est mort, envoyé par son père
en Allemagne
pour lutter côté allemand.
Il a disparu à 18 ans.
Oui. En 45 sous les bombes alliées, si j'ai bien compris. Oui. Vous avez un deuxième frère qui est mort après la guerre d'une maladie.
À 30 ans, oui.
Et puis, vous avez une sœur.
Ben, qui s'appelle Anne Sylvestre et qui a écrit 450 chansons. mais elle avait dit ce qu'elle avait à dire. Elle est restée dans les silences. Hein. Ma sœur était complètement restée dans les silences jusqu'à ce qu'on en parle finalement après mon livre, après la publication.
Vous allez regarder ces cahiers du père, c'est vous qui les regardez. Donc, vous écrivez et quel est... Et votre sœur est au courant?
Ah ben non, c'est-à-dire, moi j'ai ces cahiers et je mets déjà un an avant de les lire, parce que, et là j'avais donc 21 ans à ce moment-là,
hein,
parce que c'était brûlant, je n'osais pas les ouvrir. Et je les ai lus, et bon, j'ai passé un sale moment, en me rendant compte que ce que j'avais entendu, c'est-à-dire ce qu'on ne m'avait pas caché, enfin, ou plutôt ce qu'on m'avait caché, était encore pire que ce que j'imaginais. C'est-à-dire qu'il avait vraiment été un collaborateur, un vrai. Et pas simplement un pauvre homme égaré. Il était intelligent, c'était un homme brillant. Et on peut pas dire qu'il est tombé dans la collaboration comme un innocent. Donc, j'ai lu ses cahiers et c'est là où je me suis dit, il faut faire quelque chose avec ça. Mm-hmm. Parce que je sais pas, on peut pas garder ça, justement, enfermé dans un silence. Et là, j'ai commencé à écrire. J'ai surtout commencé par lire déjà tout ce que je pouvais sur la période, parce que je voulais être sûre qu'il racontait pas n'importe quoi. En fait, c'est très curieux, parce que ces cahiers, il écrit, mais c'était vraiment comme si c'était pour quelqu'un. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il a un peu arrangées, un peu... Bon, il a donné un rôle à Doriot. Enfin bon, il a décrit des choses. Mais des fois, on se demande si il a pas un peu... Il s'est pas lancé un peu dans la romance aussi. Cela dit, c'est ce qui m'a permis d'écrire. Et évidemment, ma sœur n'était pas au courant. Et quand le livre est sorti, elle avait tellement peur que elle m'a demandé de ne pas dire que j'étais sa sœur. Et je ne l'ai pas dit pendant un certain temps, jusqu'au moment où j'en ai eu marre. J'en ai parlé, évidemment. Mais parce qu'elle avait souffert beaucoup. Enfin, elle avait souffert. Disons qu'elle a commencé sa carrière avec des gens qui disaient c'est la fille du collabo.
Elle a 8 ans de plus que vous, il faut le préciser.
Elle a 8 ans de plus que moi. Elle était née en 34. Moi, étant née en 42, voilà. Donc ça, c'était... Et pour elle, ça avait été très difficile. Voilà.
Vous voulez écouter ce qu'elle disait en 2018, elle aussi, elle a cheminé avec cette histoire. Et en 2018, voilà ce qu'elle dit. C'était sur France Inter.
Quand j'étais enfant, quand j'étais une petite fille, mon père, qui a donc fait 10 ans de prison pour fait de collaboration, nous avait dit de toute manière, enfin c'est pas lui, c'est maman, nous a dit... tu sais, la politique, tu n'y touches pas. C'est un peu comme un enfant, vous lui prenez la main, vous lui mettez sur un poêle brûlant et tu lui dis, tu vois, ça brûle. Je me sentais illégitime. Et cette illégitimité-là, c'est un mot difficile, illégitimité, je la garde encore. C'est-à-dire, je me sens toujours un petit peu comme la petite fille qui, au moment de la libération, a été entraînée avec quelques amis voir les soldats américains et qui a refusé le chocolat. Et le chewing-gum, parce qu'elle se sentait pas digne.
Anne Sylvestre, en 2018, votre sœur donc, Marie Chaix. Oui. Comment vous réagissez à ces propos? Ne pas avoir mangé le chocolat?
Ah oui, mais ça, j'avais jamais entendu ça.
C'est assez génial hein, comme expression.
Oui, 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 oui. C'est-à-dire qu'on a, nous, on a parlé très tard de tout ça, ensemble. C'était pareil. Entre nous, on n'en parlait pas. Après mon livre, bon, alors, elle a quand même. J'ai une lettre extraordinaire d'elle où elle me dit bah, ça, je commence à comprendre. Grâce à toi, je commence à comprendre. Et puis, il y a eu un moment où on a été toutes les deux, on en a parlé, on a fait plusieurs émissions d'ailleurs sur France Inter, entre autres, et où bah, je lui avais dit en privé, je lui ai dit, mais enfin, crache le morceau, quoi, arrête. Il faut que tu admettes ça. D'autant plus qu'elle a fait des chansons plus tard, beaucoup plus tard, où elle fait des allusions, mais c'est comme si c'était quelqu'un d'autre. Mais où on reconnaît maintenant exactement ce qu'elle a pu dire et chanter. Mais elle, à la fois, elle me remerciait et à la fois, elle trouvait, elle avait beaucoup de mal à exprimer cette chose-là. Même si elle m'a, on s'est jamais fâché, je veux dire, il n'y avait pas de quoi se fâcher. Mais vous voyez, c'était quand même aussi un silence qu'il y avait. Les silences se répercutent sur ça fait des dégâts terribles.
En ce qui vous concerne, vous avez, comme Anne Weber, nommé dans les lauriers du lac de Constance. Bon, il y a un jeu avec les pro... Tantôt, oui. C'est la voix du père, tantôt, c'est, c'est votre voix. Il y a des jeux JE. Mais bon, il y a Anne.
Oui, j'ai laissé les noms.
Il y a vous, la petite, notamment la scène de votre baptême que vous reconstituez. Il y a toute la famille.
Oui, il y a toute la famille là qui...
Laurence Kahn, vous êtes face à des cas concrets de familles qui ne sont pas des familles de gens qui ont été déportés, qui ne sont pas des familles juives, qui sont des familles de gens où il y a eu d'autres sortes de traumas, où les enfants héritent d'un passé dur à dire. Et ce qui est frappant, c'est la peur là, que vous évoquez, la peur de dire et de dire publiquement, et même de dire encore plus pour vous, Anne Weber, c'est plus dur de parler avec votre père que de le révéler publiquement. C'est finalement... Ça, c'est très troublant. Qu'est-ce que vous en pensez, Laurence Kahn?
Je pense que la peur est la chose la mieux partagée du monde. Évidemment, on la rencontre pas du tout au même endroit. Parler de l'extermination des Juifs dans ma famille n'était pas l'objet d'une peur. On pourrait dire que c'était d'ailleurs très bizarre, parce qu'on m'a fait apprendre l'allemand, c'était ma première langue... J'avais donc 10 ans et j'avais eu un grand-père, un grand-oncle qui avait été déporté, un cousin de la génération au-dessus de ma mère. Donc oui, c'était présent. On me fait apprendre l'allemand avec de drôles de pensées qu'il faut savoir se défendre, donc connaître cette langue-là. Et là-dessus, évidemment, on m'envoie en Allemagne, puisque je suis dans une famille où on va apprendre les langues par des séjours linguistiques. Et là, il y a quelque chose de l'ordre de la peur que je connais.
Là, c'est vous qui avez une peur.
Ah, mais oui. Et alors, j'ai lutté contre la peur et lutté contre la déréalisation, n'est-ce pas ? Parce que ça joue un rôle très, 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 très grand.
Parce que dans la peur, il y a aussi du fantasme.
D'une part, il y a du fantasme. D'autre part, dès le début, c'est-à-dire dès la curiosité d'enfant que j'ai eue, et qui était une curiosité pour en savoir encore plus, je sais pas, c'est au moment des réparations allemandes, j'entendais mes parents en parler. Il y avait un très très curieux mélange entre savoir l'histoire et puis une investigation infantile avec tous les moteurs du désir infantile qui ne sont pas nécessairement directement liés au trauma, qui sont liés à un mouvement pulsionnel absolument personnel.
Oui, ce que j'essayais de faire dans ma question très maladroitement, c'était de vous faire parler, vous, d'Anne Weber et de Marie Chaix. Je crois que vous avez lu leur texte pour cette émission.
Ah oui, j'ai lu les...
Je voudrais que vous me disiez ce que vous en avez pensé.
Je vais être tout à fait honnête. Des choses complètement différentes. Puisque le livre de Anne Weber est un livre qui est fait dans la lenteur d'une exploration. y compris avec des moments de cassure, car le moment où vous êtes en relation avec un historien, je crois, qui vous dit un appartement au-dessus du Sicherheitsdienst. Mais vous savez, c'est pas la peine de chercher plus loin.
Non, il lui dit plus très exactement, si je vous cite j'espère, ne vous faites pas d'illusions.
Ouais, ça, ne vous faites pas d'illusions.
S'il a été là à ce niveau de renseignement dans ce lieu, ne vous faites pas d'illusions.
Et votre commentaire, c'est ah bon, parce que je me faisais des illusions. Voilà. Et alors, ça, c'est une espèce de mouvement très lent. Où effectivement quelque chose brûle, mais c'est aussi le rapport au père qui brûle à l'intérieur du livre, qui exige le ralentissement. Moi, c'est en tout cas comme ça que je l'ai lu. Alors que d'une certaine manière, le style des Lauriers du lac de Constance, c'est presque le style inverse. C'est-à-dire qu'il y a du style libre indirect, si bien qu'à certains moments, on se demande qui parle. Avec des raccourcis d'une brutalité dans leur poésie absolument incroyable, y compris la fin. La fin où on apprend brutalement que cet homme est mort alors que vous étiez finalement très très jeune.
Et puis alors la fin, excusez-moi, adieu monsieur, tu peux dormir tranquille. Ben voyons Marie Chex, vous ne l'avez pas du tout laissé dormir tranquille, j'adore cette phrase de fin.
Ça veut dire je t'ai pardonné. D'une certaine façon. Ça veut dire, bon, maintenant, je te connais. J'ai compris. Pas tout. J'ai pas tout compris. Parce qu'évidemment, on ne peut pas comprendre. Comprendre dans le sens, je l'ai compris lui. Je ne l'ai pas compris face aux événements qu'il a traversés. Mais voilà, c'était une façon de faire la paix. Je crois qu'on a besoin de faire de la paix. Faire la paix avec ses... Déjà avec ses parents, c'est pas facile. Mais on se sent mieux, après. Ça,
je veux. Vous êtes d'accord, Anne Weber ?
Je ne suis pas du tout
d'accord.
C'est
très intéressant, ce désaccord.
Je ne suis pas du tout d'accord. Je ne vois même pas comment on peut dire « je lui ai pardonné ».
Ben, je lui ai pardonné d'avoir déconné, si vous voulez que je dise les choses plus...
D'avoir plus déconné ?
Déconné, oui, il a déconné. Ça, c'était un mot de ma Juliette, ma nounou, qui m'avait dit « Ah, tu vas le vendre, ton livre ?»
Mais c'est pas...
Et elle a répondu, et j'ai dit « Bah, il se vend !» Et elle m'a dit « Bah, au moins, les conneries de ton père auront servi à quelque chose. » Ça, c'est très français, ça. Hein, c'est une bourguignonne qui disait les choses. Non, vous comprenez pas. Bien sûr que on vit avec...
C'est un peu plus grave que... Il a un peu déconné.
Mais bien sûr.
Il n'y a pas enfin,
un
doute dans le livre.
Un peu d'ironie, un peu d'humour. Dans
un
les...
peu d'humour.
Je veux dire, bah, oui, non, un peu, parce que qu'est-ce qu'on ferait ? On ne va pas pleurer.
Mais si, on va pleurer.
Mais oui, bah, d'accord, j'ai assez pleuré, ça va. À 83 ans, j'en ai marre. Donc, et ça, je l'ai écrit quand j'avais 30 ans. Donc, on a le droit d'aimer son père. Voilà, c'est tout. Et on a le droit de lui pardonner, même si personne ne trouve que c'est pardonnable.
Bon. Vous êtes très choquée, Anne Weber.
Non, j'ai l'impression de pouvoir comprendre quand même, parce que j'ai aussi un père que j'ai aimé, sauf qu'il était trop jeune, mon père. C'est par rapport à mon grand-père, que je n'ai pas connu, donc c'est plus facile pour moi d'en parler. Mais je comprends cette ambiguïté et ce déchirement. Simplement, je ne comprends pas comment on peut arriver à... Il me semble que c'est quelque chose qu'on ne peut pas résoudre et qu'on ne peut pas arriver au point où on se dit, bon, bah, ça y est, ça m'a suffisamment torturé, maintenant je fais la paix, c'est fini, on pardonne et voilà.
Mais, vous savez, ça arrangerait beaucoup de monde si ça se passait, vraiment, même en ce moment, vous voyez, si on se pardonnait. Ça a l'air chrétien ce que je dis, mais se pardonner les uns les autres, ça ferait du bien. Ça ferait du bien au monde, ça ferait du bien aux guerres. Ben bon, mais les hommes sont des imbéciles, je suis désolé. On retombe toujours dans les mêmes terreurs, on retombe toujours. Et ça, c'est désespérant. Ça, c'est désespérant. Voilà, ça recommence.
Eh bien, je vous propose d'arrêter là cette discussion qui ne devrait pas s'arrêter. J'ai tout aimé, même vos silences et vos désaccords. Merci beaucoup, Laurence Kahn, Marie Chex et Anne Weber. Les références de vos livres sont précisées sur le site de notre émission. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms, qui cette semaine nous parle de morale et de politique. Voici le pourquoi du comment.
Comment la guerre peut-elle séparer la morale et la politique? Beaucoup de philosophes de l'éthique et de philosophes de la morale au XXe siècle ont considéré que la guerre était l'épreuve suprême de la morale et finalement de sa coupure avec la politique. Nous croyons que la morale est fondamentale dans la vie humaine, qu'il faut respecter la vie et la liberté d'autrui, mais voici que la guerre, comme le disent aussi bien Bergson que Lévinas, par exemple, en 1932, puis en 1945 et 1961, voici que la guerre rend ces principes non seulement fragiles, mais au fond même les abolit et les remplace par d'autres. Ce qui devient obligatoire dans la guerre, ce n'est plus de respecter la vie d'autrui, c'est au contraire de la lui enlever. Le meurtre, le mensonge, l'espionnage, la violence deviennent non seulement possibles, mais obligatoires, dit Bergson, en temps de guerre. Ce qui nous paraissait interdit devient alors obligatoire, obligatoire en tout cas, non pas évidemment à l'intérieur d'une société, mais pour ceux que l'on appelle les ennemis. La guerre, alors, vient complètement séparer la morale et la politique. La politique a pour morale, alors, de distinguer entre ceux qui sont du bon côté et ceux qui sont du mauvais, entre les amis et les ennemis. Mais alors, cette guerre est-elle l'exception qui vient couper la politique et la morale, qui vient rompre la morale universelle, qui vient la fragiliser radicalement? Lévinas se demandant si la guerre ne nous révèle pas la fragilité de la morale, ne nous révèle pas la vanité de la morale. La guerre est-elle donc cette fragilisation générale, ou bien faut-il l'assumer comme le principe même de la politique et finalement de la morale même intrinsèque de la politique? Il y a eu au XXe siècle, notamment sous la plume célèbre de Carl Schmitt, une définition de la politique par la distinction entre amis et ennemis, par la guerre elle-même, comme si la guerre n'était pas ici un principe immoral, mais au contraire le principe définissant la morale de la politique. La politique ayant pour but, alors minimal, de défendre une société contre ses dangers communs et avant tout, en effet, contre la guerre et contre des ennemis potentiels. Faut-il voir dans la guerre l'exception qui arrache la politique à la morale, au lien avec la morale qui devrait être la norme, ou faut-il voir au contraire, dans cette exception, la vérité de la politique, le fait que la politique a sa morale, une morale réduite à la guerre, finalement, une morale réduite à la distinction entre les amis et les ennemis. La politique intérieure aussi, alors, serait définie par cette guerre, ce risque de guerre civile, et même finalement cette revendication pour certains de la guerre civile, finalement l'adversaire en politique étant potentiellement un ennemi, quelqu'un qu'il faut définir comme un danger pour la société commune. C'est cette question de la guerre civile qui nous oblige finalement à ne pas voir dans la guerre la vérité de la politique, mais au contraire le danger contre lequel la politique doit lutter en s'appuyant sur la morale. Cette question de la guerre civile est en effet ce qui est l'épreuve de vérité. La guerre civile est le risque vers lequel dérive tout affrontement, les affrontements étant eux-mêmes absolument normaux dans une société complexe où les êtres humains ont différents choix moraux, peuvent entrer en conflit aussi bien sur des intérêts matériels, c'est le conflit économique, que sur des intérêts éthiques, c'est la guerre des valeurs. Alors justement, c'est l'épreuve de la guerre civile qui doit nous montrer qu'il reste un lien entre morale et politique et que même dans la politique extérieure, il y a encore quelque chose de civil, quelque chose qui nous relie les uns aux autres et que donc, non, la guerre ne peut jamais séparer entièrement la morale et la politique, elle oblige à les relier même entre les peuples.
Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Marie-Claire Oumabadi. Elle a été préparée en particulier par Anna Felpin, ainsi que toute l'équipe d'Avec Philosophie, Philippine de Bellois, Carla Michel, Chaïma Giboire et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.